Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à tous, et puis je voudrais dire, Lydéric, que c'était évidemment un plaisir partagé de partager le bureau avec toi et puis de travailler avec toi. Donc je suis très flatté d'avoir été convié à vous parler aujourd'hui. Alors moi, effectivement, je vais vous parler de ce qu'on a fait plutôt par des approches de modélisation moléculaire autour des problèmes d'adsorption, donc du confinement, on va dire, et du transport dans des matériaux nanoporeux. Alors, je préfère le faire maintenant, parce que sinon je vais oublier. Je remercie mes collègues sur ces sujets, hein, des postdocs, mais aussi donc des collègues qui sont dans la salle. Donc, Lydéric, qui a beaucoup contribué à ce sujet, et puis Pierre Lévitz, qui est également présent dans la salle. Alors, je vais commencer par une définition assez triviale. Qu'est-ce que j'entends par un matériau nanoporeux? Alors, c'est une... Merci Pierre pour l'image, hein, que tout le monde reprend à chaque fois. Tu devrais faire payer des royalties. Donc c'est simplement un matériau, on va avoir une coexistence entre des domaines solides et puis une porosité, donc du vide. Et puis bah, par définition, quand on parle d'un matériau nanoporeux, ça veut dire qu'on s'intéresse à des matériaux où l'échelle de la porosité ici, c'est typiquement de l'ordre du nanomètre. Alors on étend, hein, c'est du nanomètre jusqu'à, on va dire, la centaine de nanomètres, c'est ce qu'on appelle le royaume des matériaux nanoporeux. Alors ça, c'est des matériaux qui existent naturellement ou qu'on sait synthétiser, hein, comme des zéolithes, Lydéric en a parlé, mais aussi des charbons actifs, je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis, ben, en fait, quand on s'intéresse à ces matériaux poreux, avec une taille spécifique, il y a deux choses extrêmement importantes à garder à l'esprit. La première, ben, c'est évidemment cette taille, hein, caractéristique, le nanomètre, donc ça a été discuté dans la leçon inaugurale par Lydéric, mais aussi plus tard dans d'autres cours. Pourquoi c'est si spécifique, hein? C'est pas juste une échelle comme une autre, c'est le milliardième de mètre. Et en fait, ici, c'est la limite où on ne peut plus considérer un fluide comme un milieu continu, parce qu'on commence à être sensible à cette échelle-là, à la forme, la taille des molécules. Hein, donc typiquement de l'angström jusqu'au nanomètre, mais même au-delà, hein, vous avez des grosses molécules ou des structures, on va dire, supramoléculaires. Et en tout cas, c'est ça l'idée, c'est qu'ici, vous avez un confinement extrême, où vous ne pouvez plus ignorer ce que Lydéric appelle, je crois, la granularité de votre fluide. Donc, ce n'est plus un milieu continu. Et puis, alors ça, évidemment, donc, il va y avoir un effet très fort de ce confinement. On peut aussi dire qu'à cette échelle-là, typiquement, le nanomètre, c'est aussi la portée caractéristique, on va dire, des interactions qui assurent la cohésion d'un liquide. Hein, dans l'eau, typiquement, une molécule d'eau voit ses voisines jusque quelques nanomètres. Donc, quand vous confinez, vous pouvez aussi vous dire que vous introduisez une sorte de rayon de coupure dans les interactions. Et puis le deuxième effet important, bah, c'est une très grande surface spécifique. Donc typiquement, quand vous prenez une cendre de cigarette, par exemple, si vous prenez 1 cm3, si vous pouviez déployer toute la surface spécifique à l'image d'une feuille de papier chiffonnée, hein, qu'on déplierait, vous allez avoir des mètres carrés, typiquement, dans 1 cm3 de cendre. Mais dans ces milieux nanoporeux, comme le rapport surface sur volume est très grand, vous pouvez atteindre des surfaces beaucoup plus grandes. Typiquement, l'ordre d'idée, c'est 1000 mètres carrés par gramme. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est que finalement, ces matériaux nanoporeux, vous voyez que c'est l'outil macroscopique, on va dire, pour faire de la nanofluidique. Parce que dans un matériau comme ça, macroscopique, alors je l'ai déjà dit, hein, on peut les synthétiser, mais les zéolithes, c'est des phases haute pression, haute température de la silice, qu'on trouve en général haute pression dans les zones volcaniques. Hein, donc on en trouve en France, typiquement dans le Massif central. Voilà. Alors, ce qui est important avec ces matériaux, pourquoi je dis qu'on peut déjà faire de la nanofluidique, c'est que macroscopiquement, vous pouvez déjà faire des mesures. Par contre, le problème, évidemment, c'est que vous avez déjà une réponse macroscopique dans laquelle il est parfois dur, pour ne pas dire impossible souvent, d'extraire finalement la spécificité de ces effets nanométriques qu'on va étudier spécifiquement avec des outils de nanofluidique. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que ces matériaux, et je ne veux surtout pas faire un catalogue, mais c'est vrai que ces matériaux nanoporeux, en fait, on les utilise depuis très très longtemps. Je ne dirais pas sans savoir qu'ils étaient nanoporeux, mais presque. Encore une fois, je ne veux pas faire un catalogue, mais c'est utilisé dans notre vie tous les jours. Hein, en catalyse, on utilise certaines zéolithes pour passer le pétrole. On va le faire réagir, donc c'est de la catalyse, là on parle de chimie, hein, pour produire en fait des petites molécules qui sont le début finalement de l'industrie chimique et puis aussi de l'essence. On l'utilise aussi pour la séparation de phase, hein, typiquement produire des bouteilles d'oxygène, ça veut dire être capable de séparer l'oxygène de l'air. Ça c'est très compliqué parce que O2 et des molécules comme une molécule comme N2, l'azote, c'est deux molécules qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, hein. Quasiment la même masse, la même structure chimique, donc le même quadrupole quasiment. Donc il n'y a que des matériaux comme ces zéolithes qui sont capables de les séparer de manière très efficace et pour le coup à bas coût. Juste dernier exemple, l'échange aussi ionique. Hein. On utilise ces zéolithes qui contiennent naturellement des ions, en général sodium, potassium. C'est typiquement des adoucisseurs d'eau. Donc on va mettre en présence d'une eau dure avec des ions divalents comme le calcium. La force électrostatique, évidemment, avec un calcium est plus forte que le sodium. Donc le calcium va prendre la place de deux sodiums et on adoucit l'eau. Voilà. Bon, ça c'est un exemple un peu plus dramatique, hein. C'est Fukushima. Aujourd'hui, une façon de filtrer les eaux qui ont été utilisées pour refroidir les réacteurs, c'est d'utiliser ces zéolithes qui vont piéger les ions césium, strontium, qui sont des ions nucléaires. Bon. Et puis, dernière application, il y a des choses plus légères, litière pour chat, engrais, et puis ça, pour ceux qui aiment le keg qui s'auto-refroidit. Donc, c'est le principe de la sudation. Ici, on a de l'eau, ici de la zéolite, et puis au moment où vous ouvrez le keg, bon, c'est une invention allemande, hein, on met en contact les deux, donc la zéolite est hydrophile, va pomper l'eau. L'eau ici est en contact avec la bière. Donc, principe de la sudation, on extrait de l'énergie du système, on refroidit le keg, ça prend 10 minutes à refroidir et ça reste froid 2 heures. Alors, après cette introduction, vous allez me dire, mais alors finalement, si on fait des nanoporeux, pourquoi faire de la nanofluidique? Parce que tout ça, c'est assez connu et utilisé depuis longtemps. Mais parce que je dirais que jusqu'à il y a 20 ans, finalement, il n'y avait qu'à se baisser pour trouver des applications. C'est-à-dire, les gens savaient qu'il y avait ces zéolithes, des grandes surfaces spécifiques, et puis on trouvait des zéolithes ou des matériaux carbonés, on cherchait le bon pour une application, et voilà, comme je disais, on ramassait un peu les choses faciles. Et puis, aujourd'hui, avec les enjeux climatiques, énergétiques, il faut un peu pousser ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, il y avait beaucoup, et c'est vraiment l'idée du cours de l'IDEREC sur la nanofluidique, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de nouveaux phénomènes d'adsorption et de transport dans ces matériaux nanoporeux à découvrir, à comprendre, pour pouvoir concevoir de nouvelles applications qui vont vraiment plus loin que ce qu'on sait faire au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est un peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire de ce qu'on a compris, comme je vous disais, par des techniques essentiellement de simulation moléculaire et des approches théoriques sur l'adsorption et le transport dans ces matériaux nanoporeux. Alors, je vais commencer la première partie en vous parlant plutôt d'aspects thermodynamiques. Donc, on va regarder ce qu'on appelle les phénomènes d'adsorption. Donc, l'adsorption, c'est simplement quand vous avez une surface, il y a une interaction moléculaire entre les molécules de fluide et la surface qui vont lier à une surconcentration de molécules de fluide à la surface de votre matériau. Hein, c'est juste ça. Alors, on parle d'adsorption et pas d'absorption, parce que A, dans latin, ça veut dire vers, et ça veut dire qu'on se place du point de vue du fluide, c'est-à-dire c'est le fluide qui va vers la surface. C'est un petit détail sémantique qui n'a pas grand intérêt, mais juste pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est un D. Et puis on va parler aussi de criticalité, vous allez voir, de déplacement de points critiques dans les matériaux nanoporeux. Alors, en général, pour introduire les phénomènes d'adsorption, le mieux c'est de revenir un peu à la thermodynamique de base, c'est qu'en fait, ce que vous faites dans une expérience d'adsorption, alors moi je vais parler que de simulation, mais je vais vous montrer quand même quelques expériences, en général on se place dans ce qu'on appelle en mécanique statistique l'ensemble grand canonique. En thermo, c'est simplement l'ensemble ouvert. Ça veut dire que votre système ici, qui va être votre matériau poreux avec un volume V constant, est en équilibre avec un réservoir de molécules infini qui impose, lui, sa température et son potentiel chimique. D'accord ? Donc, vous voyez bien que c'est un système ouvert. Les molécules de fluide vont pouvoir s'échanger entre le réservoir et le matériau. Alors, juste un petit détail, en général, expérimentalement, en fait, on trace plutôt tous ces phénomènes, non pas en fonction du potentiel chimique, mais en fonction de la pression de gaz. Mais simplement, quand vous avez un fluide, si vous imposez son potentiel chimique et sa température, alors vous fixez aussi sa pression. D'accord ? C'est juste qu'expérimentalement, on impose plus facilement une pression de gaz qu'un potentiel chimique, mais gardez ça en tête. En fait, d'un point de vue thermo, ce que vous imposez, ça n'est pas une pression, c'est un potentiel chimique. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ? Eh bien, on mesure typiquement la variable conjuguée du potentiel chimique en thermodynamique, qui est le nombre de molécules dans votre système. D'accord ? Et c'est ce que je vous montre ici. On va mesurer le nombre de molécules dans le matériau en fonction de la pression de gaz P. Encore une fois, comme je viens de le dire, ça pourrait être ici un potentiel chimique. Et alors, P0 ici, c'est simplement la pression de vapeur saturante. C'est-à-dire, c'est la pression à laquelle vous allez, sans confinement, dans des conditions non confinées, transformer tout votre gaz en liquide. D'accord ? Donc, c'est le point de transition gaz-liquide à cette température-là. Et en général, ce qu'on voit, c'est ça, c'est-à-dire qu'à basse pression, on absorbe très rapidement, vous voyez, avec la pression. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de former ici une monocouche donc de fluide adsorbé à la surface de votre matériau. Puis, à peu près autour du point bleu, là, quand vous continuez d'augmenter la pression, vous voyez qu'on augmente la quantité adsorbée, mais avec une pente plus faible. Et ça, c'est simplement dû au fait qu'au-delà de la monocouche, vous êtes plus loin de la paroi. Et donc, les interactions moléculaires sont plus fortes, elles décroissent avec la distance. Donc, il faut, en gros, augmenter plus la pression pour continuer d'adsorber des molécules. Puis, à une pression, vous voyez, largement inférieure à la pression de vapeur saturante, P0, vous avez cette discontinuité ici dans la quantité adsorbée qui traduit le phénomène de condensation capillaire. C'est-à-dire qu'à ce point-là, en fait, votre film ici, alors j'ai mis une coupe, mais en fait c'est un port cylindrique, votre film ici devient mécaniquement instable et donc spontanément vous remplissez de liquide. Et alors là, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on retrouve, même si c'est des simulations moléculaires, donc à l'échelle de quelques nanomètres ici, je crois que c'est 4 nanomètres, vous voyez qu'on retrouve, alors il y a les fameuses fluctuations microscopiques dont parlait Lidéric dans le cours d'aujourd'hui, mais en fait on retrouve, si vous moyennez ici, vous allez retrouver parfaitement l'image du ménisque de Calvin, comme dans un tube à essai. Et ça, c'est quand même un résultat assez surprenant qu'à cette échelle-là, on retrouve quand même les ingrédients de la thermodynamique, on va dire, classique. Puis, quand vous partez d'un port complètement rempli, vous voyez que si vous diminuez la pression de gaz, vous observez une hystérèse. Alors ça, c'est de la simulation moléculaire, mais croyez-moi, on voit la même chose expérimentalement dans ces matériaux nanoporeux. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez avoir une évaporation capillaire. Donc, en gros, le ménisque qui est là, dont je viens de parler, va se déplacer et vous allez vider votre tube. Alors, cette hystérèse-là, elle a fait couler pas mal d'encre. En fait, l'explication, elle est assez simple, hein. C'est que vous voyez que vous avez ici une transition à l'équilibre thermodynamique parce que vous avez une coexistence entre le gaz et le liquide. Donc là, il n'y a pas à nucléer la phase gaz, elle est déjà présente. D'accord ? Donc ça, c'est l'équilibre thermodynamique tel que décrit par la loi de Kelvin, je vais y venir. Alors qu'à l'adsorption, en fait, vous avez de la métastabilité. D'accord ? Donc vous devez aller jusqu'à la limite, on dit spinodale, c'est-à-dire la limite de stabilité de votre film, où là, vous allez observer la condensation capillaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été... C'est un papier de 1938 d'un certain Leonard Cohen. Alors, pas, ça sonne un peu comme le chanteur, mais c'est avec un A, pas un E. Et qui a été, c'est marrant, parce que complètement éclipsé par un papier dans le même journal, la même année, le même volume, 60 pages avant, qui est le fameux modèle BET, Brunauer, Emmett et Teller. Donc, Teller, hein, c'est le physicien célèbre de l'effet Jan Teller, qui a travaillé là-dessus. Où en fait, c'était simplement, ils ont développé un modèle d'Ising, alors c'est pas la dérivation qu'ils choisissent, mais ça revient à un modèle d'Ising, pour décrire l'adsorption, vous voyez, d'un film multicouche sur une surface. Et puis alors, pour cette partie-là, ben, j'ai déjà un peu tout dit, hein, j'ai dit, c'est finalement des ingrédients de capillarité très très classiques. On écrit une loi de Laplace, c'est-à-dire qu'on écrit que la différence de pression entre le gaz et le liquide ici n'est pas nulle, c'est pour ça qu'il y a un ménisque courbe, et cette différence de pression compense exactement le terme de tension de surface gamma. D ici, c'est la taille de port, donc c'est le rayon de courbure de votre ménisque. Ça, c'est la loi de Laplace. Vous rajoutez dessus l'égalité du potentiel chimique, puisque je vous ai dit, on est dans un ensemble grand canonique, c'est-à-dire que les molécules sont libres de s'échanger entre le gaz et le liquide. Si vous combinez les deux, vous obtenez la loi de Kelvin, qui est une loi qui décrit que la condensation capillaire dans un port de taille D se fait à des pressions d'autant plus basses que D est petit. Voilà, et c'est ce que vous voyez ici. Alors ça, c'est l'image, on va dire, très classique des phénomènes d'adsorption. En fait, on peut combiner les deux images, parce que là, j'ai décrit une seule isotherme d'adsorption et deux modèles, en gros. Et ça, en fait, ça a été fait par un physicien russe, Deryagin, qui avait reconnu qu'en fait, une des faiblesses de l'équation de Kelvin, si je puis dire, c'est que l'équation de Kelvin, cette capillarité, vous dit si c'est le gaz ou si c'est le liquide qui va mouiller, qui va remplir la porosité. Mais en fait, moi, dans ce que je vous ai montré, vous avez vu, on a la formation d'un film adsorbé d'épaisseur L, ici. Enfin, pardon, je l'ai appelé L, c'est le liquide, et donc l'épaisseur, c'est T. Alors, je vous ai dit, on se place dans l'ensemble grand canonique. Donc, la fonction thermodynamique qu'il faut minimiser dans cet ensemble-là, c'est le grand potentiel qui est en fait une énergie libre, mais dans l'ensemble grand canonique. Et alors ce grand potentiel, bah, c'est la somme des termes de volume. Donc ici, vous avez les termes pression fois volume pour le gaz, pour le liquide. Et puis, vous avez deux interfaces ici. Une interface, donc gamma, c'est la tension de surface, solide-liquide. Et puis, vous avez une interface ici, liquide-gaz. Alors, si vous vous arrêtez là, c'est l'équation de Kelvin. Vous allez retrouver exactement ça. Et donc ça avait été reconnu par Derriagin, qu'en fait, il manquait quelque chose ici pour décrire en fait, la formation de ce film. Et donc, pour ça, il rajoute un terme ici en rouge, qui est un terme de surface aussi. Hein. C'est pour ça que ça dépend de A, qui est l'aire de la surface. Et on va rajouter ce potentiel de surface, WT, qui va décrire le fait que, d'un point de vue thermodynamique, c'est favorable d'augmenter la taille du film ou au contraire de la faire disparaître ou de la diminuer. Donc ça, pour ceux qui sont familiers avec ça, c'est en fait ce potentiel surface, hein, donc c'est une énergie par unité de surface. Si vous prenez sa dérivée, ça vous fait une énergie par unité de volume. Donc ça, c'est une pression, hein, une énergie par unité de volume. Et donc cette pression-là, la dérivée, c'est ce qu'on appelle la pression de disjonction. Alors on sait que selon son signe, elle peut être disjointe, c'est-à-dire disjoindre, elle va avoir tendance à séparer l'interface solide-liquide de liquide-gaz, donc elle va avoir tendance à faire croître le film absorbé, ou au contraire, elle peut avoir l'effet, selon son signe, de faire disparaître cette interface. D'accord ? Alors, on peut mettre beaucoup de choses dans cette fonction, dans ce potentiel de surface. En général, on se dit, les interactions qui sont responsables de l'absorption, c'est des interactions dispersives qui décroissent avec la distance en 1 sur R6. Si vous intégrez ces interactions 1 sur R6 entre deux plans, ça vous donne du 1 sur une distance au carré. Donc c'est pour ça que vous verrez beaucoup de potentiel de surface en 1 sur la distance au carré. Ça, c'est l'image qu'on n'a que des interactions dispersives. En fait, en pratique, il y a beaucoup d'interactions. Par exemple, si vous mettez de l'eau sur une surface minérale, vous allez avoir des interactions entre les dipôles, les OH de surface, qui fait qu'en pratique, c'est souvent... Alors, c'est pas seulement que c'est plus facile ou plus réaliste, mais je vais dire une chose sur pourquoi c'est un bon choix, on va dire. En fait, on peut prendre de manière un peu générique une fonction simplement qui décroît exponentiellement avec l'épaisseur. Donc, évidemment, à des distances infinies, les deux interfaces ici ne se voient plus. D'accord ? Alors, pourquoi c'est un bon choix ? C'est parce que, en fait, le préfacteur ici, on le connaît exactement. Il y a une limite qui l'impose. C'est qu'en fait, ça doit être ici ce qu'on appelle le paramètre d'étalement, qui est en gros la différence des termes de tension de surface entre solide-gaz et les deux autres, c'est-à-dire solide-gaz moins solide-liquide et liquide-gaz. Et pourquoi je dis que c'est un bon choix ? C'est parce que quand l'épaisseur du film absorbé ici va disparaître, ce choix-là, donc ce terme-là va devenir, à l'intérieur de l'exponentielle, c'est 0, donc ça devient 1. Et ce choix-là vous permet de retrouver les deux situations où vous êtes complètement mouillé par le gaz ou complètement mouillé par le liquide. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon choix, pas seulement parce que ça marche bien, quoi. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est donc, je vous ai montré déjà des isothermes d'absorption qu'on avait simulés. Alors, le problème ici, c'est qu'évidemment, il y a deux grandeurs qu'on ne connaît pas. Ben, ce paramètre d'étalement, il est propre au couple fluide-solide, mais il est coton à mesurer. Donc, en pratique, on va le traiter comme on va l'ajuster. Et puis ça, si c'est la longueur, c'est la portée de cette interaction. D'accord ? Donc, on a deux paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre isotherme d'absorption pour le plus grand port et on va la sacrifier pour estimer ces deux paramètres. D'accord ? Donc, le modèle, c'est en rouge. Vous voyez que c'est exactement ce que je vous disais dans le slide précédent. On a un modèle qui nous permet de décrire de manière aussi bien à basse pression qu'à haute pression, à la fois la partie physisorption, formation de ce film absorbé, et condensation capillaire. Et une fois que j'ai ces paramètres-là, évidemment, j'y touche plus, puisque je viens de vous dire, c'est propre au couple solide-fluide. Donc, ce que je vais vérifier ici, c'est que ce modèle-là, la ligne rouge, est capable de reproduire la pression de condensation capillaire, donc celle que je vois ici, en fonction du rayon de mon port. Donc ça, c'est le port que j'ai utilisé pour calibrer. Mais vous voyez que même pour des toutes petites tailles de port, on décrit très bien ce qu'on observe en termes de pression de condensation. Et les croix ici, c'est des expériences qui ont été faites par ma collègue Anne Galarno à Montpellier, qui a considéré des ports de type... c'est des mésopores de silice qui sont cylindriques. je ne rentre pas dans le détail, mais ils arrivent, nos collègues chimistes, à synthétiser des phases hexagonales avec des pores parfaitement, presque parfaitement cylindriques. Donc vous voyez qu'on a ici un très bon accord entre le modèle, les simulations et l'expérience. Alors, pardon ? Alors non, c'est de l'azote à 77 Kelvin, donc c'est plus simple, mais c'est un peu le fluide de référence pour la caractérisation des matériaux poreux, donc on a beaucoup d'isothermes d'absorption, c'est un peu... voilà. Donc pour l'eau, je crois qu'Elisabeth Charlet avait regardé et que ça marche aussi, voilà. Par contre c'est pareil, il faut évidemment ajuster le paramètre d'étalement ou la constante de Hamaker quand on prend des interactions dispersives. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'exponentielle est intéressante, parce que, alors comme je disais, c'est pas seulement que c'est une espèce de fonction générique qui décrit simplement une interaction qui décroît avec une portée caractéristique xi, c'est vraiment, il y a cet argument plus théorique que par ailleurs le fait que le préfacteur et le paramètre d'étalement assurent qu'on a les bons régimes asymptotiques. Alors maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est des choses finalement très très classiques. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on regarde l'isotherme d'absorption qu'on obtient pour plein de tailles de pores. Hein, parce que là, il y a quand même un résultat, je suis passé vite, mais vous voyez que là, on est parti de plutôt grands nanopores. Hein, on est à 5 nanomètres, donc 10 nanomètres de rayon. Mais là, on est vraiment, on atteint presque le nanomètre. Alors là, je vous montre ce qu'on obtient justement quand on fait des isothermes d'absorption, toujours d'azote à basse température, en fonction de la taille de pore. Alors il y a cette fameuse hystérèse de capillarité, puis vous voyez que quand je diminue la taille de pore, elle va diminuer en taille, elle va quasiment disparaître, mais là ça reste quand même, il y a quand même une petite hystérèse, ça reste discontinu. Et puis alors ce point rouge, en fait, il symbolise le fait qu'il y a une sorte de diamètre critique en dessous duquel les isothermes d'absorption, il n'y a plus d'hystérèse, et plus fort que ça, les remplissages et les vidages, du coup, deviennent réversibles. D'accord ? Réversibles et continus, pardon. Alors ça, c'est à température constante. Donc ça, si vous tournez votre tête sur la gauche, ça suggère en fait cette enveloppe rouge là, qui est une espèce de point critique de capillarité. Alors, si vous faites les mêmes simulations ou les mêmes manips, hein, ça a été fait, cette fois-ci, pas en jouant sur la taille de pore à température constante, mais vous faites même taille de pore et vous cherchez le point critique capillaire, c'est-à-dire en température. Et bien vous obtenez ça. Alors, la courbe noire, c'est le diagramme de phase de tous les fluides. C'est la température en fonction de la densité. En dessous de la température critique, vous avez deux points qui coexistent. Basse densité, c'est le gaz. Haute densité, c'est le liquide. Et si vous faites ça, donc ça c'est pour un fluide bulb, donc ici l'azote à 77 Kelvin, donc son point critique c'est 126 Kelvin de mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites ça dans un matériau poreux, vous allez voir qu'il y a un déplacement vers les basses températures de ce point critique, estimé comme ça, c'est-à-dire le passage où on passe de discontinu, c'est-à-dire une transition de phase du premier ordre, à une transition de phase du deuxième ordre. Et alors ça, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qui avait été prévu il y a très longtemps. Alors, je cite Bob Evans en 1986, mais en fait, Michael Fisher a un papier en 1983 où il écrit aussi ça. Alors, ils ne sont juste pas d'accord sur l'exposant critique ici, mais ils ont prédit, par des approches différentes, qu'il y a effectivement un déplacement du point critique qui varie en inverse de la taille de pore. Donc ici, c'est le rayon, ici le diamètre, mais il y a juste un facteur 2. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est de... comparer plein de données de la littérature. Alors, en blanc, c'est des expériences. Alors, quand je vous dis plein de données de la littérature, c'est que je ne pourrais même plus vous dire quel point est quoi, mais il y a plein de fluides. Il y a de l'eau, il y a de l'azote, il y a du CO2, enfin voilà, il y a vraiment plein de fluides, des liquides organiques, des choses comme ça. Et alors, pour pouvoir tracer ça de manière sans dimension, ici, ben, c'est facile parce que c'est déjà sans dimension, hein, c'est normalisé au point critique. Et puis ici, en fait, j'ai normalisé au paramètre sigma, qui est la taille de la molécule, donc qui est pris simplement comme le diamètre cinétique. Et donc, vous voyez que alors, Bob Evans avait prévu ça simplement avec une théorie de champ moyen, et c'est finalement simplement un espèce d'argument presque de dimension en disant qu'il y a un effet de rapport surface sur volume. Hein, c'est ça qui vous fait apparaître la taille de pore. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, malgré l'utilisation de plein de fluides, plein de matériaux poreux, on a effectivement un comportement linéaire entre les deux. Et puis alors en rouge, ben, c'est pareil, sauf que là, c'est des données de simulation moléculaire. Et pareil, plein de fluides, plein de matériaux poreux différents. Donc on a une sorte de consensus pour dire qu'il y a effectivement un déplacement du point critique. Alors c'est toujours très très discuté, savoir si c'est vraiment un point critique avec un grand P et un grand C, je dirais, ou si c'est une espèce de pseudo-point critique, c'est toujours discuté. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire que finalement, pour des grands ports, on a une vraie transition de phase. Ici, on a une coexistence entre une phase gaz, alors cette qui coexiste avec le liquide, alors qu'ici, c'est l'image un peu d'un fluide supercritique confiné, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations de densité énormes, le fluide devient extrêmement hétérogène, donc on a un peu cette image de fluide au-dessus de sa température critique. Alors là, il y a une espèce d'incohérence parce que je suis en train de vous dire que finalement, il se passe quelque chose quand on traverse ce point-là, là, c'est-à-dire quand on va vers les tout petits ports, mais en même temps, je vous ai dit ici, enfin en tout cas, c'est ce que suggère cette courbe, qu'apparemment, des théories classiques de capillarité thermodynamique décrivent très très bien notre système. Puis on a bien envie de prolonger ces points à des confinements ultra extrêmes. Alors pour regarder ça, on a fait la chose suivante. On s'est dit, on va aller vers des milieux vraiment extrêmement confinants, donc les zéolithes, dont on a déjà parlé. Donc on a pris 4 zéolithes à petits ports, vous voyez, alors elles ont des noms toujours 3 lettres, comme ça. Donc on va de diamètres qui sont vraiment, vous voyez, la plus grande, c'est le nanomètre, hein, donc on est vraiment dans sous le nanomètre. Et puis on s'est dit, bah, pareil, comme on ne veut pas regarder simplement avec un fluide, on va prendre 4 fluides, donc l'azote, très simple, l'hexane, déjà un peu moins simple, l'acétone, qui est une molécule, un solvant organique, et puis un xylène, donc une molécule aromatique. Donc vraiment, on a fait des molécules, on va dire, de complexité variable. Donc 4 fluides, 4 zéolithes, ça nous donne 16 points. On a fait toutes les isothermes d'adsorption pour prédire, en gros, alors, on n'a pas tracé la pression de remplissage, on a tracé KT log de la pression, donc c'est ce que je vous montre ici, c'est le potentiel chimique au remplissage, puisque je vous ai dit que ce qui comptait, c'était le potentiel chimique, d'accord ? Mais j'aurais pu le tracer en pression. C'est le potentiel chimique en fonction de ce fameux paramètre de capillarité qui apparaît dans Kelvin, donc je rappelle, gamma, c'est la tension de surface liquide-gaz, rho, c'est la densité du liquide, donc quand il est rempli, on suppose qu'il a la densité du liquide, et D, ben c'est la taille de port, donc c'est le rapport surface sur volume, c'est le paramètre de confinement. Alors, les points là, les 16 points qu'on a, c'est tous les points pleins, d'accord ? Alors, je ne me rappelle plus, mais voilà, le symbole c'est un fluide et la couleur c'est une matrice. Ce qui est important ici, c'est que vous voyez qu'on a une relation linéaire qui suggère qu'on a effectivement ce qu'on a appelé une sorte de capillarité réminiscente, c'est-à-dire qu'on est en dessous de ce diamètre critique, on ne peut plus vraiment parler normalement de remplissage, de transition de phase du premier ordre, mais on a encore, quantitativement en tout cas, une sorte de capillarité réminiscente. Pour vérifier que, ça c'était des simulations moléculaires, pour vérifier que ce qu'on racontait avait du sens, on a pris plein de données de la littérature encore, donc là ça va être tous les symboles ouverts. Donc à chaque fois, c'est encore une fois des zéolithes, et puis là on a, vous voyez, du propane, du CO, O2, cyclohexane, pentane, et puis celui-là je ne sais plus son nom, c'est un solvant compliqué. Et alors, vous voyez qu'on a une sorte de, effectivement, les expériences confirment, en tout cas ce qu'on a pu trouver dans la littérature, qu'on a quelque chose où le potentiel chimique du remplissage est vraiment piloté par ce paramètre de capillarité. Alors, pour essayer de comprendre ça, on est revenu à ce modèle de Deryagin que je vous ai montré, puis on l'a poussé un peu dans ses derniers retranchements. C'est-à-dire que si vous minimisez ce grand potentiel pour avoir la pression, là, c'est encore une fois, c'est le potentiel chimique de remplissage, vous obtenez cette équation. Donc, ce deuxième terme, si vous l'oubliez, vous voyez que simplement, ici, vous retrouvez la loi de Kelvin, finalement, le paramètre de capillarité. Et puis, comme vous avez ce terme de potentiel de surface, ben, vous avez aussi un terme d'interaction de surface. Donc, je rappelle que si c'est la portée de ces interactions, T, c'est l'épaisseur du film adsorbé au moment où vous remplissez votre matériau, d'accord ? Parce que là, c'est vraiment le point où on remplit. Et puis, D, c'est la taille de port. Et alors, ça vous suggère qu'effectivement, vous avez quand même un paramètre de capillarité, mais quid de ce terme ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, a priori, que ce terme ne joue pas un rôle prépondérant. C'est même plutôt l'inverse qu'on attend. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a fait simplement ce modèle-là, et on a tracé, vous voyez ici, donc c'est la taille de port, hein, qui va jusqu'à vraiment des tout petits ports. Et là, c'est l'épaisseur du film adsorbé à ce point où vous remplissez. Alors, pour les très, 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 très grands ports, évidemment, on va retrouver que quand le port est très grand, l'épaisseur du film adsorbé ici au remplissage est négligeable. Et donc là, vous allez retrouver simplement votre loi de Kelvin. Quand le pore devient plus petit, bah, le film adsorbé ici, là, croît. Et puis, vous voyez, il y a un optimum ici. C'est-à-dire que là, votre film adsorbé rapporté à la taille de pore, il est maximum. Vous êtes entre 1 et 2 nanomètres. Mais, et c'est là qu'on va pouvoir, en tout cas, intuiter un peu ces résultats, ce qui est intéressant, c'est que quand vous poussez vraiment les tailles de pore vers les toutes petites tailles, en fait, ce remplissage ici, cette pression-là de remplissage, elle est tellement à basse pression, à très 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 basse pression, que le film adsorbé qui se développe ici reste très très faible. Donc en fait, vous pouvez supposer ici que même si la taille de pore est toute petite, en fait, l'épaisseur du film adsorbé est encore plus petite. Alors quand vous faites une sorte de développement limité ici, vous obtenez ça, c'est-à-dire que, et ça c'est ce qui nous intéresse, on a toujours ce terme de capillarité qui semble être le terme dominant, on va dire, et là on a le terme d'interaction de surface. Alors, j'ai pas dit qu'il était négligeable. J'ai juste dit que vous avez quand même un terme dominant qu'on semble observer ici, et ce terme-là, en fait, il est pas nul, mais c'est celui qui est responsable de la dispersion des points autour de cette loi de capillarité. Mais vous gardez un comportement quand même piloté pour beaucoup par ce terme de capillarité. Alors maintenant, je viens à la partie transport. Commencé à 45, il me reste 15 minutes. Ouais. Alors, pour la partie transport, alors là, c'est des travaux donc, que j'ai mentionnés plus tôt, qu'on a fait avec l'IDERIC. Alors, simplement, pour le plus simple, si vous voulez décrire le transport dans un matériau nanoporeux, c'est de repartir de cette loi de Darcy, qui au départ était une loi parfaitement empirique, découverte au milieu du 19e siècle par Darcy. C'est simplement en fait une loi de réponse linéaire, c'est-à-dire que vous prenez un matériau, vous appliquez un gradient de pression pour induire un flux de molécules et vous observez que la vitesse des molécules, pourvu que le gradient de pression ne soit pas trop fort, la vitesse des molécules est simplement proportionnelle au gradient de pression. Donc, c'est une théorie de réponse linéaire. Et puis bah, dedans, vous avez deux paramètres. Vous allez avoir état, qui est la viscosité du fluide. Donc ça, en gros, l'idée qu'on a parlé avant, c'est le terme qui résiste au transport, d'accord ? Alors que K, c'est en général, on suppose que c'est un paramètre qui est propre aux matériaux. En tout cas, l'image classique dans la science des matériaux poreux, c'est de dire K, c'est une grandeur propre aux matériaux. C'est en gros, alors si vous regardez les unités, c'est des mètres carrés. Hein. Donc l'idée, si vous comparez l'équation de Darcy à un flux de Poiseuille, en fait, vous allez retrouver que K, c'était typiquement lié à la taille de pore au carré. Donc c'est une surface par laquelle, en fait, on conduit notre matériau. Bon. Et puis, il y a évidemment un terme géométrique, mais voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'idée, c'est que ça, c'est en mètres carrés. Alors ça, c'est l'image un peu classique du transport dans les matériaux poreux. Et en fait, ce qu'on avait fait donc à l'époque avec Kerstin, qui était postdoc, et l'IDERIC, c'était de regarder ben, en fait, le transport, c'est-à-dire la vitesse d'écoulement ramenée au gradient de pression, hein, puisque évidemment, on a vu que les deux sont liés, en fonction de l'inverse de la viscosité du fluide. Alors, on a pris ce matériau très compliqué, qui en gros est un matériau nanoporeux de carbone très très désordonné, comme vous pouvez le voir. Hein, il n'y a pas de pore cylindrique, sphérique, plan. Voilà, c'est une espèce de matériau extrêmement désordonné. Donc ici, les différentes couleurs, c'est qu'on a fait plusieurs fluides. Méthane, propane, hexane, nonane, dodécane. D'accord ? La loi ici, le trait pointillé, c'est la prédiction de l'équation de Darcy si je suppose que j'ai des pores cylindriques. Donc en gros, ici K, c'est la taille de pore au carré divisée par 8. Et alors ce que vous voyez, c'est plusieurs choses intéressantes. C'est que déjà, alors Darcy, avec une image de pore cylindrique, n'est pas complètement déconnecté hein, des résultats. Hein. Alors c'est une échelle log, donc c'est pas très bon, mais en fait, on a quand même à peu près le bon ordre de grandeur, c'est pas si loin que ça. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que vous voyez que quand vous passez d'un fluide à un autre, donc là, en gros, ici, hein, vu l'équation, simplement la pente, c'est en gros la perméabilité ici. Je viens de vous dire que normalement, l'image classique, c'est que c'est indépendant du fluide. Or ici, vous voyez bien que ça dépend drastiquement du fluide. Et pire que ça, vous changez pour le même fluide ici, vous changez la densité, hein, donc en gros, le nombre de molécules par unité de volume dans les cages, vous voyez que même là, votre perméabilité dépend de l'état du fluide. Donc c'est pas fluide indépendant, et même pour un fluide, c'est dépendant aussi des conditions thermodynamiques. Alors ça, je vais passer ce slide par manque de temps, mais ça c'est quelque chose où j'ai beaucoup appris de l'IDERIC. Mais en fait, il y a une façon d'expliquer pourquoi ces résultats-là, donc sur un fluide ultra confinées à l'échelle moléculaire s'écartent de la vision transport visqueux classique, bah, l'idée, en fait, c'est de repartir de cette équation de conservation de la quantité de mouvement. Donc ici, vous allez avoir la dérivée de la quantité de mouvement. Hein. Donc en gros, c'est l'accélération d'une particule fluide. Et puis ça, c'est le bilan des forces qui s'appliquent sur cette particule fluide. Donc vous avez le gradient de pression, qui est la force externe qui induit le transport. Vous avez ce terme de viscosité qui décrit la relaxation, la friction à l'intérieur de la fluide particule, et de la particule de fluide, pardon. Et là, vous avez le terme de frottement entre le fluide et la matrice solide. Et en gros, quand vous utilisez cette équation, ça a été mentionné par Lidéric dans son cours, vous supposez qu'il y a une séparation d'échelle. C'est-à-dire, vous supposez que le temps de relaxation des contraintes à l'intérieur de la particule de fluide est extrêmement rapide, c'est un temps moléculaire, alors que le temps de diffusion de la quantité de mouvement, donc de transfert de la quantité de mouvement, elle va se faire sur des temps beaucoup plus longs. D'accord ? Donc c'est ça qu'on fait. Alors, quand vous faites ça, c'est là où j'ai sauté le slide d'avant, mais en gros, pour ce terme ici, on sait que alors la viscosité, c'est dans le formalisme Green-Kubo, c'est lié à l'intégrale de l'autocorrélateur temporel des contraintes. Voilà, donc la contrainte sur la particule à un instant t égale 0, un temps t plus tard. Mais en gros, ça dépend du fluide, ça dépend de la température, de la densité. Mais enfin, l'ordre d'idée, comme on a dit, hein, c'est quelque chose de moléculaire. Donc typiquement, le temps caractéristique, c'est la picoseconde. Donc 10-12 secondes. En revanche, et c'est là où j'aurais peut-être pas dû sauter le slide d'avant, c'est qu'on sait que le temps caractéristique ici de diffusion de la quantité de mouvement, lui, ben, ça va dépendre sur quelle échelle on regarde. Évidemment, si on regarde sur des échelles très grandes, ça prend plus de temps. Donc là, ça veut dire que ça va dépendre du vecteur d'onde, K, donc c'est l'inverse d'une distance, en gros, sur laquelle je regarde ça. Alors, dans un fluide, dans un macroport, par exemple, un port très très grand, je regarde des transferts de quantité de mouvement sur des vecteurs K tout petits, c'est-à-dire des très grandes distances. Donc là, ça veut dire que ce terme-là, comme K est petit, c'est-à-dire que le temps ici est beaucoup plus grand que le temps de relaxation moléculaire. Donc je suis pile poil dans l'hypothèse que je suppose en utilisant cette équation. En revanche, si je m'intéresse à des tout petits ports, ça veut dire que je vais regarder de la diffusion de quantité de mouvement sur des grandeurs typiquement de L égale 1 nanomètre, c'est-à-dire que K maintenant est très grand. Et donc ça veut dire que je n'ai plus cette séparation d'échelle. Je ne peux plus supposer que le temps caractéristique de diffusion de la quantité de mouvement est très grand devant le temps de relaxation moléculaire. Donc ça, c'est pour vous expliquer pourquoi on va avoir ces comportements non visqueux avec des effets mémoire qui ont été cités dans le cours aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi ? Alors cette croix rouge, là, elle est un peu violente parce que je ne suis pas en train de vous dire que je ne peux plus utiliser Darcy, puisque je vous ai dit moi-même qu'en général, la relation linéaire entre la vitesse et le gradient de pression, c'est quelque chose qui marche. En fait, c'est même curieux, mais enfin, c'est pas curieux, c'est que dans les matériaux nanoporeux, ça marche même très très bien parce que la friction entre le solide et le fluide ralentit tellement le fluide qu'on reste très longtemps dans des régimes, en fait, dans des régimes linéaires. Par contre, la croix, en fait, c'est plutôt pour vous dire que c'est la séparation entre une perméabilité qui serait quelque chose de propre au solide et de la viscosité qui est quelque chose de propre au fluide. C'est ça plutôt que je vais abandonner. Donc là, je vais, au lieu d'utiliser petit k sur état, je vais remplacer tout ça par une grande constante, qui s'appelle un grand k, que j'appelle la perméance. Et ça, pareil, alors ça a été mentionné par Lidéric, mais en fait, on peut montrer que cette perméance, c'est directement relié au coefficient de diffusion collectif, hein, celui dont on a parlé beaucoup dans le cours aujourd'hui. Ce coefficient de diffusion collective, en fait, il se trouve qu'en mécanique statistique, on sait l'exprimer à partir des corrélations sur les vitesses. Donc en gros, le coefficient de diffusion collectif, c'est le coefficient de diffusion self, c'est-à-dire vous regardez une molécule qui se déplace, alors elle est avec les autres molécules, mais vous l'étiquetez, c'est-à-dire c'est comme si vous regardez la diffusion de cette molécule-là, donc c'est l'autodiffusion. Mais pour le collectif, vous avez aussi des termes croisés, vous voyez qu'il faut intervenir les corrélations entre les vitesses de la molécule I à l'instant t égale 0 et les vitesses de la molécule J à un instant t plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, c'est les effets collectifs, les corrélations, d'accord ? Alors, ce qu'on avait vu avec Lidéric, c'est... Alors, l'échelle logarithme, je dois dire, nous aide un peu aussi avec ça, mais c'est qu'on avait tracé le coefficient de diffusion collectif des zéros en fonction du coefficient de diffusion self. Et en fait, ce qu'on avait vu, c'est que, en tout cas, au premier ordre, vous voyez qu'on a toujours nos fluides hein, de plus en plus gros, qu'en fait, on peut supposer que ces termes-là, en fait, ils sont, alors pas négligeables, mais du deuxième ordre, on va dire. Et l'image, elle est assez simple. C'est de dire que quand vous prenez une nano-cavité, surtout quand vous mettez des gros fluides, comme ça, le dodécane, en fait, vous mettez typiquement une molécule dans la cage. Donc les effets collectifs, en fait, ils sont très faibles. Et j'en prends pour preuve que vous voyez que cet écart à la bisectrice, c'est-à-dire D0 égale DS, devient plus marqué, vous avez vu, quand on va vers les plus petites molécules. Parce que quand on a une plus petite molécule comme le méthane, cette fois-ci, on en met 3 ou 4 dans la cavité. Donc on ne peut plus complètement négliger ces effets collectifs. Néanmoins, c'est ce qu'on a fait. On a dit au premier ordre, voilà, on peut quand même supposer qu'on est essentiellement piloté par la diffusion self. Et alors pourquoi ça c'est intéressant? C'est parce que en fait c'est beaucoup plus simple, on a beaucoup plus de modèles théoriques pour décrire la diffusion, l'autodiffusion, que la diffusion collective. Alors là, je raconte évidemment l'histoire de manière un peu accélérée, mais on a testé plusieurs choses, mais en fait on s'est aperçu que simplement une théorie de volume libre marchait assez bien. Donc la théorie de volume libre, hein, je ne fais pas la dérivation ici, mais ça, ce n'est pas une équation empirique, hein, c'est quelque chose qui se dérive, qui a été dérivé par Cohen et Turnbull en, je crois que c'est 1959, pour expliquer la diffusion dans des verres ou dans des liquides. Et alors, c'est une théorie assez... les hypothèses sont assez simples. C'est de dire, voilà, vous avez un fluide confiné. Alors, ça n'avait pas été écrit à l'époque hein, pour un fluide confiné, mais l'idée, c'est de dire que la diffusion d'une molécule ici que j'ai identifiée en bleu, donc un propane, trois sites carbonés, va diffuser quand elle va trouver autour d'elle une cavité d'une taille suffisante pour diffuser par saut, si vous voulez. Et alors, en gros, ce que vous dit cette équation, c'est que quand vous avez n molécules dans le milieu, eh ben, son coefficient de diffusion de ces n molécules, ça va être celui d'une molécule, alors 0, c'est pour dire quand n tend vers 0, c'est-à-dire une dilution infinie. Donc, il faut imaginer que ça, c'est le coefficient de diffusion d'une molécule unique, d'accord ? Donc cette partie-là inclut déjà beaucoup de physique, hein, parce qu'il y a toute la partie interaction moléculaire, tortuosité du réseau. Mais en tout cas, voilà, il y a ce paramètre-là. Et puis, cette exponentielle ici, en fait, va vous décrire l'effet du remplissage et donc de la densité des molécules sur cette diffusion. Et en gros, vous payez, quand vous remplissez, vous mettez plus de molécules dans la matrice, vous payez le prix deux fois. La première, c'est que le volume libre accessible pour la diffusion, donc ce qui est symbolisé par ces petites cavités ici, va diminuer, évidemment. Vous en avez moins puisque vous remplissez avec votre matériau. Donc, quand ce terme-là diminue, vous voyez que le terme ici dans l'exponentielle devient plus grand, avec un moins devant, donc votre coefficient de diffusion, il se casse la figure. Mais il y a un deuxième effet, c'est qu'en plus, ici, c'est le volume occupé par votre fluide. Donc, quand vous remplissez votre matrice, vous augmentez N, ben, de fait, ce volume-là occupé par le fluide augmente aussi directement, on va dire linéairement, avec le nombre de molécules absorbées, ce que j'ai mis ici. Donc en gros, c'est pour ça que je dis vous payez le prix deux fois, parce que non seulement il y a moins de cavités, mais en plus, en gros, il y a plus de monde. Et alors ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que, alors, non seulement ça reproduit assez bien les données, mais en plus, c'est que l'avantage d'un point de vue expérimental, c'est que ben, ce volume occupé ici... par le fluide, il est directement corrélé à ce que vous perdez comme volume de cavité. Hein. En gros, ce que le fluide que vous mettez, ben, il enlève autant de volume libre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est directement lié à ce qu'on appelle l'isotherme d'adsorption, que j'ai décrite plus tôt, c'est-à-dire le nombre de molécules dans votre système. Donc en gros, si vous faites des mesures d'adsorption, vous avez l'isotherme d'adsorption, vous êtes a priori capable de décrire l'impact que ce coefficient thermodynamique va avoir sur votre coefficient de diffusion. Alors, je manque de temps, donc je vais un peu vite, mais en gros, ici, on avait mesuré donc, cette fameuse perméance dont j'ai parlé avant. Je vous rappelle qu'on a supposé, on a négligé les effets collectifs, donc on dit c'est directement le coefficient de diffusion self, et vous voyez que quand on décrit les coefficients de diffusion donc, pour nos 5 fluides, alors encore une fois, je vous rappelle que parfois, il y a plusieurs couleurs, même à chaque fois, c'est parce qu'on a regardé plusieurs densités, et vous voyez qu'on décrit avec ce modèle de théorie de volume libre, c'est la courbe pointillée, parfaitement la diminution de cette perméance avec ce paramètre de volume libre. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout, mais je voudrais quand même mentionner, il me reste quelques minutes, je voudrais quand même mentionner un peu la suite qu'on a donnée à ce travail, c'est-à-dire que là, alors c'est très intéressant parce qu'on a une théorie, on va dire microscopique, pour expliquer notre coefficient de diffusion self, autodiffusion, pardon. Alors, c'est intéressant, mais évidemment, Quand vous regardez les milieux poreux réels, en général, c'est des milieux poreux multi-échelles. C'est-à-dire que là, en fait, on regarde un bout de la porosité avec une porosité certes très désordonnée, mais qui est une porosité homogène. Donc là, on est en train de regarder un coefficient de diffusion sur un système, un milieu homogène. Or, comme je viens de vous le dire, la plupart des matériaux poreux sont multi-échelles, c'est-à-dire que vous allez avoir un désordre en domaine de taille de pore, et ça, c'est un des problèmes, on va dire, les plus compliqués à traiter dans ce domaine-là où on cherche à regarder le transport macroscopique dans des milieux poreux, encore une fois, qu'ils soient naturels ou fabriqués par un être humain, ce n'est pas vraiment le problème ici. Alors ça, c'est quelque chose, cette fois-ci, c'est Pierre Lévitz qui m'a initié à ces approches-là. Hein. C'est pour l'essentiel lui qui a tout fait d'ailleurs dans ce travail. L'idée, c'est de dire, maintenant, je veux m'intéresser, comme je viens de le dire, à plutôt la partie temps long. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder seulement la diffusion sur un milieu homogène comme celui que je viens de vous montrer, mais je vais considérer des milieux hétérogènes. Donc là, on va utiliser le formalisme qu'on appelle le mouvement brownien intermittent. En fait, l'idée de départ, elle est assez simple. C'est plutôt l'aspect on va dire, formel et mathématique qui rend les choses assez compliquées. Parce que l'idée de départ, c'est de dire simplement que finalement, je peux décrire la trajectoire au temps long de mes molécules comme une succession, d'où le mot intermittence, de domaines où la molécule va être dans non adsorbée, donc on va dire dans le liquide non confiné, puis va rester un certain temps ici en orange, vous voyez, adsorbée, puis va se désorber à nouveau, va revenir à la surface, etc. Donc on a une intermittence entre des domaines d'adsorption et des domaines dits de relocalisation. Alors, ça, je peux le décrire mathématiquement avec cette fonction. C'est-à-dire ici, je trace fonction qui vaut 0 quand la molécule n'est pas à la surface et 1 quand la molécule est à la surface. D'accord ? Alors, vous voyez que dans ces fonctions I de t, il y a toute la dynamique au temps long et au temps court d'ailleurs, encodée dans ces fonctions-là. D'accord ? C'est-à-dire qu'en théorie, dans ce signal-là, j'ai toute l'info qu'il me faut. Notamment si je regarde l'autocorrélateur. C'est-à-dire ça, c'est la probabilité que la fonction i valant une certaine valeur au temps t égale 0, quelle est la probabilité qu'elle vaille une autre valeur à l'instant, un instant t plus tard. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer ces fonctions-là, notamment la transformée de Fourier, donc qui va en gros me donner les fréquences de passage entre adsorption et délocalisation. Et encore une fois, au temps long, finalement, j'ai besoin que de ça pour décrire ma trajectoire sur des temps et des échelles macroscopiques. Donc, pour ça, je ne rentre pas trop dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut qu'on soit capable d'estimer, c'est ce qu'on appelle ici ces fonctions de premier passage. Donc, en gros, la fonction de premier passage A, ici, c'est de dire, étant adsorbé, quelle est la probabilité qu'un temps T plus tard, je désorbe ? Et l'autre, c'est un peu son complémentaire, c'est étant désorbé, quelle est la probabilité qu'un temps T plus tard, je m'adsorbe à la surface. D'accord ? Et donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, je ne vais pas avoir le temps de montrer tout ce qu'on a fait, mais je vais montrer le cas un peu canonique qu'on avait commencé à regarder, vous voyez, c'est un pore ici, alors non, vous ne le voyez pas vraiment, mais c'est un pore de silice, donc hydroxylé, avec des interactions assez fortes, et là, c'est rempli d'eau, donc c'est un pore plan. Et alors, ce qu'on a fait, c'est on va utiliser de la dynamique moléculaire pour estimer justement ces fonctions de premier passage, donc en orange pour l'adsorption et en bleu pour la relocalisation. Ça, c'est bien parce que c'est des fonctions qui vont, avec la dynamique moléculaire, qui va sonder typiquement de l'ordre de jusqu'à 10-100 nanosecondes, vous pouvez avoir une très très bonne statistique sur ces fonctions de premier passage. Et puis une fois que vous avez ça, vous allez mettre, je reviens un slide en arrière, vous allez mettre ça dans ce formalisme, hein, puisque donc ici c'est les transformées de Fourier de ces fonctions de premier passage, vous avez tout, pour prédire, comme je disais, donc cette transformée de Fourier qui vous donne en gros le spectre en fréquence de passage entre phase adsorbée, phase désorbée, etc. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? En rouge, c'est le modèle, d'accord ? Donc, c'est ce mouvement brownien intermittent dans lequel on a utilisé les fonctions de premier passage telles qu'estimées par dynamique moléculaire. Et tous les points, les cercles gris ici, c'est les résultats directs de simulation moléculaire. Donc, en général, la simulation moléculaire, comme je vous ai dit, on va de l'ordre on va jusqu'à 100 nanosecondes. Hein. Donc ici, c'est en mégahertz, donc ça veut dire que là, vous êtes à la picoseconde, d'accord ? Puisque ça fait 10 puissance 12 hertz, donc picoseconde. Et ici, vous êtes à la nanoseconde. Donc on va dire que typiquement, en général, la simulation moléculaire, on s'arrête là. Voilà, on n'est pas capable d'aller à des fréquences beaucoup plus basses. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez que pour les hautes fréquences, donc les temps très courts, en fait, on a un accord, même si le modèle de mouvement brownien intermittent est, on utilise les fonctions de premier passage mesurées par simulation moléculaire, on a un écart qui est assez significatif. Pourquoi ? Parce que ici, votre dynamique, elle est essentiellement moléculaire. Il n'y a pas de mouvement brownien à ces échelles-là. Donc on ne s'attend pas du tout à ce que ça marche ici. Ce n'est pas un échec, c'est attendu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dès que vous sortez, alors vous voyez ici, j'ai dit 1 picoseconde, 10 picosecondes, 100 picosecondes, même je dirais déjà, alors je ne suis pas en phase donc j'ai du mal à dire, mais je dirais qu'en tout cas à 100 picosecondes, déjà vous êtes tranquille. C'est-à-dire que vous avez déjà cette intermittence, ce côté brownien qui est parfaitement installé. Et alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que là, ben, j'ai arrêté ici à 10 MHz, mais évidemment, une fois que vous avez le bon comportement, vous pouvez extrapoler ça à des fréquences beaucoup plus basses et donc des temps, on va dire, réellement macroscopiques. Voilà. Et donc, voilà, je vois que je manque de temps, donc je vais devoir zapper cette partie-là. Alors, juste pour conclure, voilà, le but de ma présentation aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'en fait, on a des modèles physiques finalement assez simples hein, pour décrire à la fois les phénomènes d'absorption et de transport, à l'aide de paramètres qui sont finalement accessibles assez facilement. Par exemple, quand je vous ai dit il nous faut des isothermes d'absorption ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut obtenir de manière très routine. Alors après, voilà, on a vu que pour l'absorption dans les matériaux nanoporeux, finalement, il y a une vision assez classique. Hein, j'ai utilisé que des ingrédients de thermodynamique macroscopique très très classique. Peut-être que la seule chose vraiment où il y a une nouveauté de ce point de vue-là, c'est ce que j'ai appelé ce déplacement, en tout cas apparent, du point critique du fluide. Encore une fois, je mets un bémol parce que c'est toujours discuté de savoir si c'est un vrai point critique ou pas. Pour la diffusion, on a vu pareil, alors c'est un peu ce que j'ai voulu dire en intro ici, hein, mais on a vraiment des modèles finalement assez simples, même si parfois mathématiquement ça peut être compliqué à mettre en œuvre, mais les modèles que j'ai mentionnés dans la deuxième partie, que ce soit la théorie de volume libre ou le mouvement brownien intermittent, c'est des choses, des formalismes avec des idées finalement assez simples et assez établies. Et voilà, et ça nous permet d'espérer en fait de pouvoir à terme faire vraiment du passage d'échelle pour aller décrire vraiment ces phénomènes d'absorption et de transport, mais multi-échelle. Et avec ça, je vous remercie pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.